Bonsoir. Bienheureux soit notre monde. Ça ressemble à une invocation que, en anglais ou en franglais, on appellerait wishful thinking.
Oui, c'est exactement ça. C'est plutôt ironique, c'est-à-dire que c'est à la fois ce que peuvent penser les gens qui sont très contents du monde comme il est, ce que peuvent penser des gens qui trouvent que le monde ne va pas bien du tout, mais qu'on peut le rendre très heureux. Donc c'est à la fois un avis qui peut être celui des puissants et celui des rebelles. C'est toute l'ambiguïté du titre.
Et j'imagine que vous êtes plutôt du côté des rebelles.
Bien sûr, bien sûr.
En fait, ici, pourquoi avoir choisi la voie romanesque ou romancée?
J'adore écrire des romans. Je fais souvent la comparaison entre les essais et les romans. Donc les romans, c'est comme les figures libres par rapport aux figures imposées que sont les essais, qui sont tout à fait nécessaires, où je peux dire des tas de choses savantes sur des sujets difficiles. Mais le roman, d'abord, on touche d'autres gens. Et toucher le maximum de gens, ça me concerne, ça m'intéresse. Et on peut prendre plus de liberté esthétique et en même temps laisser aller son imagination. Ce que je fais aussi dans les essais, quand je parle de l'avenir, où il y a une part d'imagination très grande, mais le roman, c'est vraiment le moment rêvé de l'écriture. J'aime aussi beaucoup écrire pour le théâtre, qui est d'ailleurs une autre forme.
De fait, je me souviens vous avoir reçu à ce sujet. Vous ne nous placez d'ailleurs pas dans un avenir tellement lointain. Hein. Vous nous placez le 6 janvier 2029
oui.
À Berlin. Et un homme, Erich Elmer, prisonnier politique, s'évade à l'occasion d'une cyberattaque et peut reprendre la tête de son groupe de résistants, les Vivants.
C'est
2029, c'est aujourd'hui.
C'est demain matin, oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Et pourtant, en 2029, le monde pourrait être assez différent d'aujourd'hui.
Il est autocrate, là. Hein.
Voilà. J'ai pris la liberté d'imaginer un monde dans lequel ce qui est possible, ce qui est vraisemblable, la situation climatique sera pire qu'aujourd'hui, dans lequel M. Trump serait réélu président des États-Unis, Mme Le Pen serait élue à l'Élysée, la Chine aurait déclenché une attaque à la fois contre Taïwan et contre la Russie, et tout va mal dans une large partie du monde. Je n'y ai pas ajouté les malheurs du Moyen-Orient pour essayer de ne pas mettre toutes les catastrophes possibles, mais j'ai été un peu devancé par les événements sur cette partie du monde. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense souvent à ce qui s'est passé au XXe siècle. Et je me dis que les 5 années qui précèdent la guerre de 14, 1908-1913, au fond, tout allait bien. Il y avait tous les progrès techniques possibles qui ont fait toute la grandeur de notre temps, le téléphone, la radio, l'avion, la télévision même, le frigidaire, enfin, l'automobile, bien sûr. Il y avait beaucoup de progrès idéologiques. La Russie avait fait la révolution de 1905, était en train de devenir une démocratie. On avait écrit les statuts de la Société des Nations. On avait écrit depuis longtemps le tour du monde des 80 jours, donc la globalisation était là. On avait pensé relancer les Jeux Olympiques, pensé à un idéal mondial. Et puis, 5 ans plus tard, commence une première guerre mondiale, une crise financière, une catastrophe, une deuxième guerre mondiale et un siècle d'horreur. On aurait pu l'éviter. Et je crois qu'on est exactement dans la même situation. On a 5 ans pour éviter un 21e siècle d'horreur. Et mes héros sont là, justement, en se disant, il faut à tout prix qu'on évite cette catastrophe. Donc je leur donne un peu mathématiquement tous les moyens. Je dis, voilà, vous êtes des héros qui avaient envie de tout changer pour le bien. Vous avez beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous faites?
En fait, on va y revenir d'ailleurs, hein. Les vivants veulent... imagine en tout cas pouvoir être en mesure d'éliminer les sombres, c'est-à-dire les méchants.
Les vrais pouvoirs.
Les vrais pouvoirs. Dans l'intervalle temps, je reste un instant sur notre actualité. Je vous lis régulièrement en éditorial toutes ces sonnettes d'alarme sur ce qui va advenir. Madame Le Pen à l'Élysée, Monsieur Trump réélu, etc. Vous ne cessez de le dire depuis des mois, voire des années. Mais ça ne semble pas percoler en termes d'effets.
Non. Je cite, je me rappelle souvent cette phrase de Marx, quand ses amis socialistes lui avaient demandé son avis sur leur premier programme du premier parti socialiste allemand, pour un congrès qui se réunissait à Gotha. Il a écrit un texte célèbre, critique du programme de Gotha, qui est une critique très ravageuse, vous faites n'importe quoi, ce programme n'a aucun sens, le socialisme peut être que mondial ou rien. Enfin, mais il avait terminé la lettre d'envoi par une phrase en latin, langue qu'il parlait parfaitement, « Dixi et salvavi animam meam », ce qui veut dire « je dis ça pour sauver mon âme, mais je n'y crois pas trop ». Voilà, je suis un peu dans cet état d'esprit.
En fait, les sombres, parlons-en quelque peu, les vrais puissants du monde aujourd'hui, parce que si on trace un peu la ligne, on se dit, ok, les grands intérêts économiques, les grands intérêts autour de l'énergie, quelques grands groupes de presse manipulateurs, quelques grands groupes dirigeant les nouvelles technologies. En fait, le politique dans ça, il n'a pas grand-chose à faire.
Le politique n'a pas grand-chose à faire, mais même ce que vous avez nommé, et c'est là où ça devient particulièrement terrible et fuyant, c'est que si, on l'a vu en France, un chef d'entreprise meurt dans un accident, comme le patron de Total, qu'est-ce que ça change? Il est remplacé par un autre qui fait ni mieux ni pire. Et c'est pareil avec la plupart des dirigeants des boîtes. Si M. Zuckerberg ou qui que ce soit disparaît, ça n'aura aucune importance. Et donc, les vrais sombres sont peut-être pas même là. Le roman, justement, traite la question de savoir où ils sont.
Ouais.
Est-ce que ce sont des gens? Est-ce que ce sont des mécanismes qui agissons ainsi? Pour le faire comprendre, parfois je prends la métaphore suivante. Quand on me demande est-ce que je suis optimiste ou pessimiste, je prends la métaphore d'un match de foot. Et je dis, si vous êtes spectateur match de foot, vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'équipe que vous soutenez. Mais si vous êtes joueur, ça ne sert à rien d'être optimiste ou pessimiste, il faut gagner le match. Donc il faut connaître ses forces, connaître la force de ses partenaires, définir une stratégie, connaître la force de ses adversaires, connaître leur stratégie, et affronter et gagner le match. On n'est ni optimiste ou pessimiste.
Et je, actif.
Et je dis qu'aujourd'hui, ben nous sommes à la mi-temps, on est mené 2-0. Voilà. Mais là, il faut comprendre, quelqu'un m'avait un jour posé une question, quand j'avais fait cette métaphore très juste, qui m'avait amené à aller plus loin. Il m'a dit, mais c'est qui l'équipe adverse? Eh bien, l'équipe adverse, c'est nous-mêmes.
On joue contre nous-mêmes.
On joue contre nous-mêmes. C'est nous qui, consommant du pétrole, qui consommant du sucre, laissons le pouvoir au pire, sommes lâches devant les efforts à faire, préférons la distraction à l'éducation. C'est nous, nous nous battons contre nous-mêmes. Et nous nous battons à nous-mêmes qui préfèrent l'instant, qui préfèrent le petit plaisir, qui, à nous-mêmes qui ne pensent pas à ses enfants, aux générations futures, à nous-mêmes égoïstes, narcissiques, ce que nous sommes tous. Voilà.
Je vais vous emmener sur un terrain sur lequel, là aussi, je vous sais actif, en réflexion et en alerte. On parle beaucoup, évidemment, d'intelligence artificielle, de réseaux à venir, de deep learning, donc de cette capacité que les machines auraient à apprendre tellement rapidement d'elles-mêmes et de leurs erreurs qu'elles finiraient par nous dépasser. L'ancien patron de Google vient de dire il faut un moratoire d'urgence, parce que sinon on va, dans les 5 ans, le délai, à une vraie catastrophe. On a le sentiment, par rapport à une vieille légende juive du golem, qu'on a un jour créé le golem et qu'on ne sait plus où est le bouton panique.
Oui, chez le golem, le bouton panique, on savait où il était. C'était le mot qui était inscrit sur le front du golem, où il suffisait de dépasser une lettre pour que le mot vérité devienne le mot mort et que le golem tombe inanimé, inerte. Oui, ce danger existe. Pour ma part, je crois qu'il est certain, mais je crois qu'il est beaucoup plus lointain qu'on ne le dit et qu'on a un peu plus de temps qu'on croit. Parce que moi, je n'appelle pas ça intelligence artificielle. J'appelle ça un langage beaucoup plus prosaïque, prévision automatique. La prévision, c'est l'essentiel de l'arme du pouvoir. Le pouvoir doit prévoir ou utiliser les moyens de pouvoir d'un autre. Le prêtre prévoit et donne son avis sur l'avenir. Le général prévoit et gagne la bataille ou la perd. Le financier prévoit et spécule financièrement. L'industriel prévoit ce qu'il doit prévoir. Le politique prévoit. Et là, on a inventé, depuis assez longtemps d'ailleurs, des machines à prévoir qui sont très rudimentaires. C'est quoi ces machines à prévoir ? D'abord, on a tout automatisé. On a automatisé tout ce qu'on fait. Et une des rares choses qu'on n'avait pas encore automatisées, c'était justement la prévision. Et comment on automatise la prévision? Simplement en prenant toutes les hypothèses faites du passé et voir comment dans le passé, tel événement a eu telle conséquence ou moins encore corrélation. Quelle corrélation entre tel événement et tel autre. Et on en déduit que si dans telle circonstance il y a une panne, on peut prévoir que plus tard, si telle circonstance est réunie de nouveau, il y aura une nouvelle panne. Que si on écrit tel mot, la probabilité est très grande que le mot suivant soit celui-là. Et c'est ça, ChatGPT. C'est la probabilité très grande que le mot qui suit celui qu'on a écrit soit celui-là. C'est tout. C'est pas grand-chose. On est très, très, très loin d'une véritable intelligence.
Dans ce qui ressemble au cauchemar que vous nous décrivez, c'est effectivement dans ce qu'on croyait être les bastions des démocraties occidentales, alors que ce soit chez nous en Europe, à Paris par exemple, ou outre-Atlantique à Washington, des autocraties s'installent. Vous dites Trump réélu en 24, en 28, vous dites Marine Le Pen, à peine arrivée au pouvoir en 27, fait changer la constitution pour rester jusqu'en 2046, enfin, un peu ce que M. Poutine fait d'ailleurs. Il paraît qu'on lui demande de se représenter et qu'il veut bien y consentir. Ça nous guette, ça ?
La meilleure façon d'éviter le pire, c'est de le prévoir. Si vous regardez ce que dit M. Trump, qu'on n'entend pas assez d'ailleurs dans ses incroyables discours de campagne aujourd'hui, c'est Hitler. C'est d'une violence contre ses adversaires politiques, contre ses adversaires de son propre camp. C'est à la fois un mélange de Hitler et de, je dirais pas Coluche, parce que Coluche était à la fois un ami et un grand monsieur, mais des pires comiques américains, et ça passe, ça marche. Ce qu'il dit qu'il fera, mettre en prison le chef d'état-major de l'armée, mettre en prison Biden et toute sa famille, envoyer au bagne la plupart des membres du Congrès, ben, il faut prendre au sérieux tout ça. Historiquement, les États-Unis sont la seule, je dis bien la seule, démocratie qui n'a pas connu une phase de dictature. Elle vient, elle va venir. Et les conséquences pour nous en Europe ne sont pas du tout anecdotiques. Si M. Trump est là, vraisemblablement il retirera ses troupes d'Europe, vraisemblablement il dira « l'OTAN ne sert à rien », et nous on va se trouver face à tous nos adversaires réels ou imaginaires, totalement démunis. Ceux qui, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et ailleurs, comptent sur les États-Unis pour nous défendre, ou en Pologne, vont se trouver bien mal lotis, sans armée, sans armement, et sans capacité de résister. L'Ukraine disparaîtra d'un coup, d'une bouchée, sans l'armement des Américains, et nous ne sommes pas là pour les remplacer. Donc, l'élection de Trump dans moins d'un an maintenant, c'est un cauchemar pour l'Europe.
Oui, Trump qui dit, avec une pointe d'ironie dans la voix, mais dont vous venez de nous rappeler qu'il faut le prendre au sérieux, lorsqu'on lui pose récemment la question « Mais serez-vous un tyran ?», il dit « Non, sauf le premier jour ».
Oui, il a très conscience qu'il est arrivé au pouvoir par erreur, par hasard, qu'il n'y était pas prêt, qu'il n'avait d'ailleurs pas envie, qu'il a paniqué ce premier jour. Mais là, il a beaucoup préparé. Il a une équipe très professionnelle. C'est ce que je raconte dans le roman. Il est là, il sera là pour mettre en place des choses terribles.
Et tous les décrets sont probablement déjà prêts, qu'il va signer, comme il a l'habitude de le faire devant les caméras du monde. Ici, en fait, vous nous dites aussi, les gens se résignent à ne pas avoir l'impact suffisant. C'est un peu ce qu'on fait maintenant. On nous dit depuis des années, oh, au niveau du citoyen, au niveau du pays, au niveau de l'Europe, on ne peut rien.
Ben, c'est pour ça que dans ce roman, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que les gens se réveillent. Alors, je ne veux pas dépoiler le twist qu'il y a au premier tiers du roman. On se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Ce qu'on vient de raconter n'a rien à voir avec ce qui se passerait maintenant. Mais il y a vraiment quelqu'un qui veut changer le monde et qui se dit, il faut que je réveille tout le monde. Il faut que je trouve une façon de toucher tout le monde, pas seulement en jetant une bombe dans un palais ou en gagnant une élection, mais toucher tout le monde au cœur. Et c'est ça qu'il tente de faire.
Les rebelles de nos jours, c'est qui ?
C'est à la fois ceux qui, modestement, vivent d'une façon aussi écologique que possible, qui apprennent et se préoccupent des générations futures, pas seulement écologiquement, mais aussi socialement. C'est ceux qui militent, c'est ceux qui tentent de se comporter de façon aussi intègre possible tout au long de leur vie. C'est ceux qui, lorsqu'ils grimpent dans des échelons du pouvoir, tentent d'agir de façon à inverser le cours des choses. C'est ceux qui font passer ce que j'appelle l'économie de la vie avant l'économie de la mort, c'est-à-dire qu'ils donnent la priorité dans leurs décisions de travail, de consommation, d'action politique au secteur de l'économie de la vie et font tout pour éliminer les secteurs de l'économie de la mort, c'est-à-dire tout ce qui touche de près ou de loin aux énergies fossiles et aux sucres artificiels qui représentent plus de la moitié de ce qu'on produit et consomme. C'est dans cette bataille-là que se situe l'avenir. Elle joue à la fois dans le comportement de chacun d'entre nous et dans des comportements beaucoup plus systémiques.
Mais il faut avoir, dans sa vie quotidienne, le temps et l'énergie à consacrer à cet esprit de rébellion. Vous êtes beaucoup investi dans la microfinance et l'aide aux plus proches des populations les plus précaires. Vous savez combien, quand la précarité de la vie occupe toute la journée, on a des difficultés à faire autre chose.
C'est pas exact. Justement parce que je me suis beaucoup occupé de Cela, je me suis rendu compte que les gens qui gèrent le plus intelligemment leur budget, ce sont ceux qui n'ont pas d'argent. Allez donc au Ghana demander à une femme qui fait du beurre de karité comment elle gère le peu d'argent qu'elle a pour faire sa récolte et vendre ses produits. Je l'ai vu sur le terrain, je vous assure que c'est très intelligent. C'est au contraire dans les classes moyennes supérieures qu'on est négligent, qu'on fait pas grand-chose, qu'on s'occupe pas, qu'on laisse courir les choses, qu'on s'occupe que de soi-même d'une façon très narcissique, qu'on préfère le 14e jeu vidéo à l'éducation de ses enfants. Non, je ne crois pas que la pauvreté soit un facteur d'ignorance. D'ignorance, en tout cas, des devoirs à l'égard de l'humanité.
Alors, on est dans ces temps de clôture de la COP 28. Mmh. On a l'impression qu'on pourrait continuer jusqu'à la COP 150, que ça ne changerait rien.
Oui, parce qu'on est, à côté de la plaque. Il faudrait décider, à la clôture de cette COP, d'interdire le charbon, d'interdire l'ouverture de nouveaux puits pétroliers, au moins dans les zones qui touchent à la biodiversité, en particulier en Tanzanie, où Total va faire une nouvelle horreur. Alors on dit, si Total ne le fait pas, c'est les Chinois, mais c'est pas une raison, parce que quelqu'un peut faire un crime qu'il faut le commettre à sa place, c'est absurde. Et il faudrait décider plus largement, ce que j'ai dit antérieurement, de considérer que la priorité, c'est l'économie de la vie, c'est-à-dire de tout faire pour éliminer les énergies fossiles, les sucres artificiels, et d'engager les grandes banques internationales, les gouvernements dans cette action. On n'est même pas à des années-lumière de se poser la question. Et pourtant, on sait maintenant que les hommes deviennent de plus en plus obèses, que l'éducation recule, pas seulement dans les pays développés, comme vient de montrer PISA, mais très généralement dans le monde, que le climat, c'est pas 1,5 degré, c'est 4 degrés minimum. C'est-à-dire vraiment une situation invivable. On sait tout ça, mais on préfère s'occuper d'un petit bonheur immédiat que des grands enjeux de, non, même pas d'après-demain, de demain matin.
Est-ce que la peur est un bon moteur pour engager les gens à choisir leur camp? Parce que c'est la question que vous nous posez dans ce
moment. Oui, la peur est un moteur utile. Regardez ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. La peur a conduit à la collaboration, en particulier en France et en Belgique, mais la peur a aussi conduit à la résistance. Je ne veux pas de cet avenir-là. À un moment, tout se joue sur le courage. Il n'y a pas de courage sans peur.
Mais pour l'instant, c'est plutôt on va à Munich.
On est à Munich. On va à Munich de toutes les façons possibles. Le courage, c'est une qualité essentielle pour l'action individuelle et collective. Et puis après, quand on a du courage, il faut foncer. C'est pour ça que François Mitterrand avait l'habitude de dire, en tout cas il m'avait dit à moi, la principale qualité d'un homme politique, ce n'est pas le courage, c'est l'indifférence. C'est-à-dire, une fois qu'on a choisi une voie, de s'y tenir.
Peu importe
la critique.
En fait, ici, votre Ehud Elmer, il vous est venu d'où? Est-ce que vous êtes inspiré d'un personnage particulier?
Non, c'est beaucoup de choses, presque tout ce qui est dans le roman est vrai. J'ai beaucoup travaillé pour une partie du roman sur les jeux vidéo, parce que j'avais besoin de comprendre comment on les faisait, qu'est-ce qu'ils deviennent, le rôle qu'ils jouent dans la société. Et c'est évidemment aussi un roman sur les jeux vidéo. Mm-hmm. Et le personnage de Udalmer est une fabrication à partir de beaucoup de choses que je connais, comme les autres personnages du roman.
Mais parce qu'on entend bien, sans tout dévoiler, on est bien d'accord, mais on entend bien qu'il s'agit ici d'un grand jeu de simulation pour nous obliger à réfléchir à
c'est
ce qui est à notre porte.
C'est ça. C'est ça. Donc j'espère que ce jeu de simulation deviendra une réalité.
Tous les jours, normalement, la presse devrait faire cet effort. Est-ce qu'elle a décidé de ne pas le faire, selon vous, ou est-ce qu'elle subit
La presse est comme tout le monde. Vous êtes soumis à la tyrannie des sondages, sinon à la tyrannie du chiffre d'affaires. Vous regardez si vous avez eu le bon interlocuteur pour avoir la petite phrase qui fait qu'on reviendra le lendemain matin. Et vous ne faites pas assez de pédagogie longue, voilà. Maintenant, il y a quand même des médias qui font de la pédagogie longue et qui sont entendus. C'est ceux-là qui méritent qu'on les encourage.
Bien heureux soit notre monde, j'y reviens, ce titre, on disait wishful thinking, il y a une forme d'invocation un peu prophétique. Mais nul n'est prophète en son pays, alors d'où va venir la voix qui va s'élever dans le désert et qui va nous dire « Ok, on y va ».
Je ne sais pas. Si on regarde l'hypothèse des siècles antérieurs, la voix n'est entendue qu'après la catastrophe, pas à la place de la catastrophe. On voit très bien la catastrophe qui va venir, écologique, militaire, technologique, idéologique, on le voit. Intolérance, racisme, toutes sortes de choses, de toute nature ou que ce soit. Et on voit les voix qui diront « Oh, il fallait pas faire ça, on fera autrement », on voit la déclaration des droits de l'homme qui a été faite en 45 et pas en 38, voilà. On voit tout ça. Est-ce qu'on pourra l'éviter? J'en sais rien. Je joue mon petit rôle en essayant de d'alerter.
Ni optimiste, ni pessimiste.
Acteur.
Acteur. Voilà. Merci en tout cas.